Bien, donc nous continuons cette matinée chargée, mais vraiment qui a vraiment démarré par une certaine densité. Alors, je voudrais rappeler que cette journée est due à la conjonction, effectivement, du comité d'histoire du ministère de la Culture et en particulier d'une rencontre avec Jean-Claude Pompougnac à la documentation française, à la présentation du livre co-dirigé par Philippe Poirier sur l'histoire des politiques culturelles. Et Jean-Claude m'avait dit « Il faut absolument qu'on organise quelque chose autour du livre de Denis Merclin. Pourquoi brûle-t-on les bibliothèques ?» Et cette question fondamentale, quand même, qui fait que dans le livre dont tu ne parleras pas aujourd'hui, un interlocuteur dit « Vous créez des bibliothèques pour nous endormir ». C'est quand même... c'est glaçant, quoi. Et à propos de glaçant, je ne peux pas non plus m'empêcher de citer ce que Jean-Claude Pompougnac avait dit... lors d'une inauguration d'une journée autour de romans et philosophie contemporains dans les fins des années 90, quand il était à l'époque directeur régional des affaires culturelles de la région Centre, il avait dit « J'ai toujours été saisi par cette formule du manifeste du Parti communiste dans lequel Marx et Engels écrivent à propos d'une période précise de l'histoire. La bourgeoisie a noyé les frissons glacés de l'extase religieuse dans les eaux glacées du calcul égoïste. » Les frissons sacrés dans les eaux glacées du calcul égoïste. C'est une formule qui me semble être assez actuelle. Je voudrais juste aussi pour compléter ou aller dans le sens de ce que souhaite Jean-Sébastien Dupuy, qui a été aussi mon directeur. Nous venons de publier, les presses de l'ENSIV, on va faire un peu de publicité, un texte de Kenneth Davis qui s'appelle « En anglais, To Beat Culture » et en français « Une culture à deux balles ». La révolution du livre de poche aux États-Unis. Je ne l'ai pas amené parce qu'il vient de sortir et qu'il pèse 470 pages, donc il est très lourd, mais c'est un livre passionnant sur l'irruption du poche aux États-Unis. Pourquoi ce livre de poche ? La conjonction entre l'économie et précisément le plaisir et la sociologie. Donc c'est un ouvrage qui vraiment est un ouvrage sans doute de référence. Donc je vais passer la parole dans l'ordre. D'une part à Denis, va intervenir davantage sur son travail autour des bibliothèques de quartier et quelle est la place d'une bibliothèque de quartier. Et ensuite, il me semble que de façon assez logique et naturelle, ce sera sans doute Cécile, qui avait publié chez nous, comme l'a rappelé tout à l'heure Yves Alix, la construction de la visibilité littéraire en bibliothèque, mais elle n'interviendra pas là-dessus. Et enfin, Charlotte, pour terminer, sur le plaisir. Denis, c'est à toi.
Merci, Thierry. C'était, si ma mémoire ne me trahit pas, « Ils nous mettent des bibliothèques pour nous endormir, pour qu'on reste tranquille dans notre coin à lire ». Bon, j'ai intitulé la communication d'aujourd'hui « Qu'est-ce qu'une bibliothèque de quartier ? Un espace, une institution, un acteur ?» Il me semblait que c'était une bonne manière d'interroger le contenu ou la nature de ce que c'est qu'une bibliothèque quand on dit qu'une bibliothèque est une institution politique. Et je voudrais m'arrêter donc aujourd'hui un instant là-dessus. La bibliothèque est une institution éminemment politique, nous dit-on, disons-nous, et ce que veut dire que sa tâche l'est, et qu'elle est une institution fondamentale de la démocratie. Et il faudrait ajouter peut-être, et on va revenir là-dessus, de la République. Ce sont des affirmations que nous attendons souvent de la part des bibliothécaires et des autorités plus ou moins en charge de la lecture publique. Et il est certain que toute une série de professions intellectuelles sont prêtes à défendre cette idée, qui est assez largement partagée par ailleurs. Ces affirmations semblent donc provenir d'un cadre commun, peut-être, il faudrait dire, d'un sens commun, au monde de la bibliothèque, de la lecture, du livre et au-delà. Mais en même temps, un cadre qu'on observe fortement questionnée ou faire l'objet de beaucoup de questionnements à propos desquels nous observons inquiète la profession des bibliothécaires qui est certainement en train de s'interroger sur la place de la bibliothèque dans la cité ou la bibliothèque dans la démocratie, pour citer quelques intitulés de quelques rencontres publiques récentes, comme la conférence de vendredi, de la semaine dernière, qui a été citée en ouverture par Ivalix, à l'INSIV de Bobcast. Mais aussi beaucoup ailleurs dans tout le territoire, on observe des rencontres d'associations ou de groupes de bibliothécaires ou de groupements de bibliothèques et on voit la profession inquiète sur qu'est-ce que c'est que la place de la bibliothèque dans la cité. Je voudrais donc partager quelques observations à propos de ces interrogations sur le caractère justement politique de l'institution et essayer de préciser ce que l'on dit quand on affirme que les bibliothèques sont des institutions politiques. Une précision, il me semble, qui doit se faire à partir de deux restrictions. D'une part, en précisant le cadre social où agit la bibliothèque, je limiterai mon propos la bibliothèque institution politique dans la manière dont elle se donne à voir quand elle est une bibliothèque municipale et qu'elle agit dans un quartier populaire, périphérie d'une grande ville. Le cas de ces bibliothèques de quartier va peut-être illustrer ou permettre de mieux voir les autres, mais je ne ferai référence qu'à celle-ci, que je vais appeler les bibliothèques de quartier. D'autre part, je voudrais préciser ou essayer de classer un peu à la manière dont ça vient d'être fait, l'orientation politique de ces bibliothèques. Il me semble qu'on peut le faire en suivant trois pistes. La bibliothèque comme agent de démocratisation, la bibliothèque comme agent de la République et la bibliothèque comme agent des conflits sociaux. C'est ce que j'ai voulu illustrer avec l'espace, l'institution et l'acteur. Je crois en effet que les interrogations sur le caractère politique de l'institution bibliothèque se ramasse autour de ces trois grands thèmes que j'ai voulu illustrer donc avec le titre. En réalité, peut-être, quand les gens disent que la bibliothèque est une institution politique, ils disent beaucoup de choses à la fois. Ils se servent de ce socle commun, la bibliothèque institution politique, pour affirmer dessus toute une série d'arguments dans lesquels dans leurs débats et dans leurs échanges sur les orientations qu'ils souhaitent imprimer à l'institution ou à leur travail quand il s'agit de bibliothécaires. Quelques précisions pour commencer qui relèvent peut-être de l'évidence, mais qu'il faut rappeler pour cette même raison, parce que ce sont évidentes. J'irai vite. Les raisons ou les motivations qui peuvent pousser à ces interrogations sont nombreuses. Le contexte politique actuel en est une, qu'on pourrait nommer la bibliothèque après Charlie. Je reprends le titre de la communication de Raphaël Watz, ici présente à la conférence Bobcast. L'institution culturelle est fortement déstabilisée et s'interroge sur son rôle au contact avec des conflits majeurs qui secoue la société tout entière et qui risque de redéfinir l'espace du politique. Un peu en amont, on peut trouver une autre raison, une autre motivation. Nous avons observé et suivi ces débats et ces questionnements dans le cadre des enquêtes sur les conflits au sein desquels les bibliothèques se trouvent engagées, malgré elles, dans les cités HLM et les banlieues. Ces conflits polymorphes ont fini, comme vous le savez, dans un certain nombre de cas, nous en avons recensé 74 à l'heure d'aujourd'hui, avec l'incendie de la bibliothèque de quartier. Ces conflits sont mis en évidence, ont mis en évidence que la bibliothèque était un véritable agent de transformation sociale, qu'elle comptait au sein de ces univers et que la désaffection et la baisse des fréquentations, quand elles étaient observées, n'étaient pas la seule chose qui arrivait aux bibliothèques. Cette conflictualité a lieu dans le cadre d'un ensemble de transformations majeures, parmi lesquelles on doit sans doute compter, pour le cas de ces bibliothèques de quartier, le départ d'une génération sociale des bibliothécaires beaucoup plus proche de la figure du militant que celle qui arrive maintenant depuis quelques années. Mais compte aussi une transformation concernant le contenu des bibliothèques. Qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque? Qu'est-ce qu'elle véhicule? De quoi elle est la médiation? Cette question sur le contenu apparaît dans les débats autour des collections, de l'offre culturelle de la bibliothèque au sein des univers sociaux, culturels et politiques qui sont les quartiers. Quelle culture et quelle lecture pour les quartiers populaires? Dans ce cadre, il faut revenir sur une première évidence qui est l'une des déterminations majeures du cadre politique des bibliothèques aujourd'hui en France. Je veux dire tout simplement que les bibliothèques sont, dans l'immense majorité des cas, des institutions publiques, financées par l'impôt et qu'elles font partie de l'État. Salariés, leur personnel fait partie de la fonction publique, même lorsqu'il est contractuel, je taille en gros. Et il est issu pour une bonne partie des formations professionnelles directement liées à la bibliothéconomie, au métier du livre, etc. Ces deux coordonnées, institutions publiques et professionnalisation, sont centrales à l'heure d'évaluer la nature politique des bibliothèques. Deux coordonnées qui peuvent passer inaperçues, tant elles sont évidentes, mais ces deux caractéristiques sont déterminantes de la nature politique de la bibliothèque et conditionnent également leur évolution future. Il est toujours intéressant de se déplacer vers d'autres contextes nationaux où les bibliothèques de quartier ne sont pas des entités municipales, mais majoritairement associatives et qui peuvent être qualifiées de populaires dans la plupart des cas. C'est le cas le plus souvent en Amérique latine, où nous observons actuellement, mais aussi en Europe du Sud, en Espagne par exemple, où de nombreuses bibliothèques apparaissent après la crise et portées par des mouvements sociaux suite au retrait de l'État. La nature politique d'une bibliothèque publique change notamment en fonction du statut de celles et de ceux qui la dirigent, qui contrôlent leur budget, qui ont le pouvoir de décider sur la nature politique de la bibliothèque, sur la politique de la bibliothèque, le contenu et l'orientation de ses collections, de ses activités, son règlement, ses locaux, s'il est gratuit ou pas, ce qu'on peut faire à l'intérieur du bâtiment, etc. Ce qui est en jeu, c'est le rapport entre les deux principales catégories d'agents qui font la bibliothèque, les bibliothécaires et leur public. Ce qui est en jeu, c'est s'il s'agit de deux catégories sociales distinctes ou pas. Quelle est la nature et le degré des distances sociales qui les séparent? Il est dans ce cadre important de tenir compte de la trajectoire des actuelles bibliothèques municipales en France. Bien qu'un nombre considérable soit des créations récentes, une bonne partie de ces bibliothèques hérite de cette évolution que nous pouvons, suivant le titre de l'ouvrage aussi rappelé tout à l'heure, le passage des bibliothèques populaires à la lecture publique. Une évolution qui s'est traduite par une municipalisation, car ce sont les gouvernements locaux qui ont eu à leur charge le développement de ces équipements. Ce changement, ce que je veux dire, c'est que ce changement de statut est donc à l'origine de cette consolidation budgétaire de la bibliothèque et de la professionnalisation de ceux qui, jusqu'alors, ont agi en qualité de bénévoles et de militants. Ils étaient, ça a été rappelé, républicains, socialistes, communistes, catholiques, militants de l'éducation populaire, syndicalistes, et j'en passe. Ils sont aujourd'hui fonctionnaires, professionnels de la lecture publique. D'autre part, la bibliothèque cesse d'être une institution pauvre pour avoir des locaux adaptés, des collections riches et dynamiques, une évolution constante, toutes choses dont sont démunies le plus souvent les bibliothèques populaires ou associatives. Toutefois, le rapport des bibliothèques aux classes populaires change radicalement. La bibliothèque cesse d'être une organisation appartenant à une classe. Comme j'ai dit, elle pouvait prétendre accompagner le peuple ou les travailleurs ou les classes populaires. En effet, même lorsqu'elle est animée par des bénévoles provenant d'autres couches sociales, même lorsque ces militants n'ont pas une vision classiste de la société, la bibliothèque est présentée à la faveur d'une catégorie sociale, ou plus précisément d'un peuple, privé de l'accès à la lecture. Est-ce que cette orientation est complètement éteinte aujourd'hui ? La nature politique des bibliothèques municipales et de quartier en France devient intelligible à travers donc cette double détermination de sa position et de sa trajectoire en tant qu'institution. Or, nous voyons immédiatement que cette condition politique n'est pas univoque. Par sa position en tant qu'institution publique, elle fonctionne principalement à travers le contenu qu'un groupe professionnel lui confère. La bibliothèque, le groupe des bibliothécaires est contraint à défendre la bibliothèque comme un espace pluriel et neutre, donnant accès à la diversité de la culture. Du point de vue des professionnels de la lecture, la bibliothèque ne peut pas être celle d'une catégorie sociale particulière et encore moins embrasser un point de vue singulier comme une idéologie, une esthétique ou une religion. Les bibliothécaires se doivent de contenir l'accès à toutes les opinions et orientations présentes dans la société. C'est ainsi qu'elle acquiert sa détermination politique à proximité de l'idée de service public. Et c'est en proclamant une position de neutralité vis-à-vis de la diversité culturelle que les bibliothécaires font des opérations fondamentales, deux opérations fondamentales. D'une part, ils peuvent compter avec le soutien des responsables politiques, qu'ils peuvent ainsi leur confier une mission de la lecture publique. D'autre part, ils peuvent s'allier à leur public qu'ils déclineront au pluriel comme des publics. En tant qu'institution politique, la bibliothèque prend distance des conflits sociaux pour agir dans le sens de la démocratisation. La bibliothèque est ici plutôt un espace ouvert. Elle se veut ouverte à tous les livres et à d'autres supports, bien évidemment, à tous les usagers, à des multiples usages. Elle s'érige en institution politique en rendant possible la pluralité culturelle, l'accès au savoir et à l'information. C'est dans la double idée de pluralité et de neutralité que la bibliothèque peut être défendue comme une institution de la démocratie. Et plus récemment, la bibliothèque a redoublé ce caractère politique démocratique en devenant un symbole ou une métaphore de certaines conceptions contemporaines de la démocratie. Parce qu'elle fait cohabiter en son sein toute la presse et toute la littérature, toutes les religions et tous les goûts, toutes les idéologies, elle est un espace paradigmatique de la liberté d'expression et d'information, et plus fortement encore, de l'idée cosmopolitique de la démocratie. Je crois que les nouvelles générations de bibliothécaires sont particulièrement attachées à cette idée du politique orientée vers la cohabitation des différences. C'est ce qui apparaît souvent derrière l'expression du « vivre ensemble ». Mais en même temps, telle qu'elle se présente aujourd'hui, la bibliothèque est une institution républicaine ou de la République, au sens que cette idée hérite probablement, c'est comme ça que je le ressens, du moment de la Troisième République. Ici, la bibliothèque prend un tout autre visage. Elle est une institution de l'État dont le rôle ne peut pas se limiter à satisfaire les demandes ou les envies de tel ou tel secteur ou de telle ou telle catégorie sociale. L'État est là pour intervenir dans le social afin de proposer ce que la société civile n'est pas capable de créer d'elle-même. Ainsi, l'État invente la laïcité comme un espace inexistant entre les religions et ouvre une nouvelle dimension à la vie sociale. L'État invente l'éducation publique comme un espace inexistant lorsque la socialisation des nouvelles générations était exclusivement entre les mains des familles ou des institutions religieuses ou privées. Plus près de nous, il a l'obligation de veiller à l'égalité entre les genres et à lutter contre les discriminations raciales. Le rôle des institutions éducatives et culturelles est de transformer les individus en citoyens de la République en leur permettant de sortir de leurs identités et de leurs déterminismes sociaux. L'idée politique qui oriente ici la bibliothèque est double. L'égalité d'un côté, la création de nouveaux espaces de sociabilité publique de l'autre. La bibliothèque comme troisième lieu, comme espace distinct, ouvert, au sein de la dure réalité du quartier, va peut-être plutôt dans le sens de cette orientation de la bibliothèque. La chose publique apparaît comme un pilier fondamental de la politique moderne et prend notamment en France la forme d'un service public, assuré par une catégorie sociale singulière. Et la lecture publique est un service public assuré par une catégorie singulière. Les bibliothèques viennent, en ce sens, proposer une idée nouvelle dans l'espace de la culture. C'est ce que beaucoup de bibliothécaires nous disent lorsqu'ils cherchent à ouvrir un espace à la lecture qui ne répondrait pas entièrement au dictat du marché éditorial, par exemple. Ainsi, le bon bibliothécaire ne formera pas ses collections suivant la liste des meilleures ventes, des best-sellers pour les livres, des box-office pour les films ou les chansons. Les bibliothécaires ont toute une série d'outils, des revues, des forums, des lieux de débat et des organes spécialisés pour les aider à constituer leur collection, c'est-à-dire ce qu'ils proposent à leur public. Et les évolutions actuelles questionnent à de nouveaux frais cette forme politique de la bibliothèque. Nous ne sommes plus dans une situation où la difficulté d'accès aux livres et à la culture était un obstacle massivement matériel ou économique. Le livre au marché et la multiplication de l'imprimé, la scolarisation et plus récemment le développement d'Internet ont changé la donne. Le rôle de la bibliothèque devient peut-être plus que par le passé un rôle d'orientation et de construction d'un espace pour une certaine pratique culturelle. Dans l'immense jungle de l'édition, les bibliothécaires jouent un rôle important de sélection et de proposition. Bien qu'ils se défendent en affirmant le contraire, les bibliothécaires sont des prescripteurs culturels et ils ne devraient pas en pâlir. Heureusement qu'ils sont là. Ce constat ne fait pas d'eux ni des censeurs, ni autorités religieuses, ni ne constitue pas en parti politique, ni même en enseignant, toutes des formes d'autorité reconnues pour le rôle de prescripteur. Mais la bibliothèque est bien un acteur politique et ne peut pas se limiter à être un espace ouvert. Il y a actuellement deux thèmes où nous pouvons très facilement voir les bibliothécaires et les bibliothèques dans leur rôle d'orientateur culturel, d'acteur, défendre des valeurs où ils ne se limitent pas à répondre à la demande de leurs lecteurs, ni à l'ouverture d'un espace pluriel sans censure. Ce sont les cas du racisme et du sexisme. Nous voyons très souvent sur ces deux thèmes comment les bibliothécaires s'érigent avec force et sans hésiter contre l'avis de leur public, qu'ils trouvent parfois sexiste et raciste. Ce conflit où le bibliothécaire agit souvent contre l'avis de nombreux lecteurs est particulièrement saillant au contact avec les classes populaires. Et nous voyons aussi sur d'autres points qui font controverse dans l'espace social et politique où nous voyons les bibliothécaires prendre parti. Je pense notamment aux questions environnementales ou aux conflits internationaux où le point de vue des types écologistes et occidentaux prévalent. Certains débats qui traversent la profession prennent aussi un autre aspect. Souvent, les bibliothécaires se disputent à propos de comment constituer leur collection, à propos de ce qu'il faudrait offrir aux lecteurs ou des animations, c'est-à-dire des activités culturelles qu'ils peuvent proposer. Certains pensent que le rôle de la bibliothèque est de proposer une lecture de qualité à travers des critères qui ne soient pas ceux des industries culturelles, ni des injonctions suivant des critères religieux ou idéologiques. Souvent, ce sont les plus âgés et les plus anciens dans la profession, souvent aussi ceux qui déclarent avoir des engagements militants. D'autres critiquent le fait que les bibliothèques ont dans leur collection des livres que les gens ne veulent pas lire. Souvent, ce sont les plus jeunes. Il faut finir. Deux minutes. Souvent, ce sont les plus jeunes qui se sentent démunis des critères pour choisir. Qui suis-je pour dire aux gens ce qu'ils doivent lire ou pas lire? Comment dire qu'un livre ou un film est meilleur ou préférable qu'un autre? La sociologie a une tendance peut-être trop automatique à aborder cette question autour des catégories qui sont devenues des espèces de sens communs, y compris dans les professions de la culture, entre misérabilisme et populisme. Mais nous pouvons aussi penser que ces deux positions que je présente un peu schématiquement diffèrent dans la conception qu'elles représentent de la bibliothèque comme institution politique. Il y a dans la première position une prééminence d'une conception républicaine, tandis que dans la seconde prime une conception cosmopolite, cosmopolitique ou démocratique de la bibliothèque. Nous voyons une claire valorisation des orientations allant dans le sens de la diversification des supports, des collections, des courants esthétiques ou culturels. Et cette valorisation de la diversité se double d'une affirmation du cosmopolitisme où ce qui apparaît très clairement, c'est la difficulté, voire l'impossibilité des agents à classer les productions culturelles dans un ordre hiérarchique. Nous voyons souvent les bibliothécaires assez démunis. La ligne de partage qui séparait la culture légitime des autres formes de culture s'est effacée. Cette position démocratique résiste à voir les classes populaires comme un sujet dominé ou soumis à des rapports de domination parce qu'elle conçoit l'espace social comme un espace démocratique où ce qui prime, c'est la diversité des identités qui doivent pouvoir cohabiter. Or, la société française est traversée par des importants conflits sociaux et les débats et les bibliothèques dans les quartiers se trouvent dans des territoires secoués par des dynamiques de transformation qui agissent dans le sens de l'inégalité et des discriminations. Et ces conflits peuvent difficilement être réduits à l'existence de différences identitaires. Il suffit de penser au chômage, au racisme, à l'échec scolaire, à la violence policière, qui sont des dimensions primordiales de cette conflictualité qui, elle, informe l'expérience sociale de ces catégories. La bibliothèque est ici frappée par des conflits qui toquent à la porte de la bibliothèque où la dimension des classes de l'institution politique réapparaît. De quel côté sont les bibliothécaires? D'où la question où ils nous mettent des bibliothèques pour nous endormir. Du côté de la police, des acteurs politiques, des enseignants, des travailleurs sociaux, des journalistes, des intellectuels, avec qui font-ils alliance? Pour finir, il nous semble donc que la bibliothèque, pour le cas des bibliothèques de quartier, sont tendues entre trois orientations politiques qui proviennent de sources distinctes. Est-ce que la bibliothèque appartient à son public? Et est-ce que ce public doit-il être pensé depuis une catégorie comme celle des classes populaires? Et en conséquence, adopter un point de vue partiel sur la culture, la société et la politique? Est-ce que la bibliothèque est une institution républicaine qui propose un espace et une orientation de la culture située au-delà des appartenances sociales et des identités culturelles? Est-ce que la bibliothèque est une institution plutôt de la démocratie qui doit dont la seule orientation est l'ouverture au multiculturalisme. Je vous remercie.
Cécile, c'est à vous.
Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de cette journée et de cette invitation en particulier, qui me donne l'occasion de présenter une enquête tout juste achevée. Alors, mon intervention ne va pas être exactement conforme à l'intitulé qui figure sur le programme. J'espère que ça ne va pas créer trop de déceptions. Je vais parler des pratiques adolescentes de lecture, parce que malheureusement, je n'ai pas du tout enquêté sur cette question. Mais je vais parler des politiques des bibliothèques en direction des adolescents. C'était en effet l'objet de l'enquête sur laquelle je vais revenir aujourd'hui. Alors, vous allez vous dire peut-être quel est le rapport avec, avec la journée et avec... Et avec la question de la démocratisation. Donc pour moi, cette intervention se situe dans la continuité d'une précédente intervention que j'avais faite dans le séminaire sur la démocratisation culturelle, où j'avais pointé l'ambiguïté des politiques de démocratisation culturelle. Et je rejoins parfaitement ce que disait Max Buchlen tout à l'heure, entre une affirmation réaffirmée, on va démocratiser, on va élargir les publics, etc., et en même temps des politiques qui me semblaient poursuivre de fait d'autres objectifs. J'avais noté à ce moment-là qu'il y avait une ambiguïté, notamment dans la définition même de démocratisation, dans la mesure où il y avait une forme de confusion peut-être voulue entre élargissement des publics et démocratisation, c'est-à-dire élargissement en termes de catégories sociales d'appartenance des publics. Et j'avais noté aussi à ce moment-là qu'au-delà des obstacles économiques et physiques qui sont ce sur quoi on travaille d'abord quand on commence à travailler la question de la démocratisation culturelle, persistaient des obstacles symboliques. Et il me semblait qu'on se souciait finalement assez peu de ces obstacles symboliques. Et en parlant de ces obstacles symboliques, je parlais par exemple des faits liés au contenu même des collections, mais surtout à l'organisation des bibliothèques, à leur atmosphère, à leur principe de classement, mais aussi au postulat d'autonomie qui est celui du inhérent au libre accès qui est aujourd'hui la règle dans presque toutes les bibliothèques et qui postule une certaine maîtrise de la part des usagers. Bref, toutes sortes d'obstacles symboliques qui font dire à certains que le lieu n'est pas pour eux. Voilà. Il reste que les bibliothèques aujourd'hui sont en mutation, tentent de jouer sur tous les tableaux, de diversifier leur offre, de mettre l'accent sur les services plus que sur les collections. Et cherchent à modifier leur image en proposant de nouveaux usages. Alors, aujourd'hui, je voudrais donc proposer une sorte de détour en reposant la question de la démocratisation culturelle à partir d'une enquête de terrain que j'ai menée sur les politiques des bibliothèques en direction des adolescents. Alors, il s'agissait d'une enquête qui a été financée par le ministère de la Culture, qui a été gérée par l'association Lecture Jeunesse et qui était une enquête qualitative menée dans une vingtaine de bibliothèques de France avec une diversité dans l'échantillon. Et c'est une enquête qui portait, qui prenait la forme d'entretiens approfondis. Et au total, il y a eu une soixantaine d'entretiens réalisés. Donc c'est une enquête qui s'est déroulée en 2014-2015 et aujourd'hui l'analyse n'est pas encore terminée. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas encore fondé sur l'intégralité de l'analyse du corpus. Le point de départ de cette enquête, que je vous présente très très rapidement parce qu'on a peu de temps, c'est de constater que les adolescents sont une catégorie floue, à la fois floue et hétérogène, et que souvent c'est un public qui pose problème en bibliothèque, et notamment qui pose problème par son absence ou par son caractère difficile à cerner, en tout cas. Et donc, un certain nombre de choses sont mises en place dans certaines bibliothèques en direction de ce public. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre ce public comme un exemple de public éloigné et voir ce qu'on fait en direction de ce public. Et en me disant que peut-être que les démarches qui président à ces politiques en direction des adolescents, finalement, peuvent valoir pour des publics éloignés plus largement. Alors, les 20 bibliothèques dont je vous ai parlé, qui constituaient le terrain de l'enquête, ont été choisies sur la base d'une certaine diversité de taille, de structure, de type d'implantation, etc. Je pourrais revenir, mais là, je passe rapidement. Mais surtout, elles ont été choisies pour le fait qu'elle faisait des choses en direction des adolescents. Ce qui, en fait, n'est pas forcément la règle du tout. Par ailleurs, au sein même des établissements qui font des choses en direction des adolescents, il y a certains établissements qui font des choses assez classiques, par exemple qui mettent en place un club lecture pour adolescents, qui concerne un nombre parfois réduit d'usagers et qui finalement me semble maintenir les inégalités sociales, comme ça a été dit tout à l'heure, par rapport à l'école. Voilà, donc on ne peut pas vraiment parler de démocratisation. Dans d'autres établissements, on va plutôt jouer sur un effet vitrine. On va dire, oui, on fait des choses en direction des adolescents, on fait un espace ad hoc, on met de la musique, des jeux vidéo, etc. Mais après, qu'est-ce qu'on fait vraiment en termes de médiation? Est-ce qu'on peut vraiment parler de démocratisation culturelle? Pas nécessairement. Et donc, à ce moment-là, on n'est pas non plus dans la démocratisation culturelle. Alors, moi, je voudrais essayer d'écarter donc ces deux cas-là et de prendre quelques cas où, au contraire, on fait des choses en direction des adolescents qui s'apparentent à des formes de démocratisation culturelle. Et donc, je voudrais essayer d'identifier quelques principes sous-jacents. Alors, il ne s'agit pas du tout pour moi de prétendre ériger ces bibliothèques en modèle. Je ne suis pas là pour ça. Moi je ne suis pas prescriptrice pour le coup. Mais je voudrais essayer donner quelques éléments pour qu'on puisse comprendre sur quoi repose la réussite de ces politiques et quelles sont les conditions de possibilité, surtout, de cette réussite. Donc il ne s'agit pas de prétendre que tout le monde doit faire ça. Et au contraire, il s'agit plutôt de montrer que ça ne va pas de soi et que ce n'est pas évident par rapport à l'identité du métier, par rapport à ce qu'est l'institution. Je pointerai quatre principes que j'ai pu identifier, que je vous énumère rapidement et puis ensuite je vais développer très vite chacun. Le premier point, ça sera l'accueil dans les différents établissements que j'ai repéré comme faisant de la démocratisation. On peut dire qu'il y a une véritable politique d'accueil. Je vais essayer de vous dire ce que j'entends par là. Ensuite, un deuxième point consiste à noter que ces établissements souvent prennent appui sur de nouveaux médias à côté du livre. Ça ne veut pas dire à la place du livre, mais en tout cas aussi à côté du livre. Troisièmement, ces bibliothèques mise sur des différentes formes d'implication des publics éloignés en question, des jeunes. Ça peut rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure sur participation, collaboration, etc. Ça peut n'être qu'un mot. Là, en l'occurrence, dans les exemples que j'ai pris, c'est pas qu'un mot. Dernier point, ce qui me semble quelque chose de récurrent, c'est l'importance des partenariats et de l'inscription sur le territoire. Donc, comme on a dit tout à l'heure, territorialisation, etc. Mais cette fois, là encore, ça crée un cadre qui permet un certain nombre d'actions d'être mises en place. Je reprends rapidement chacun de ces points pour les développer. Ces différents établissements ont en commun de mettre en place en direction des jeunes une politique d'accueil. Donc je dis des jeunes ou des adolescents, le flou de la catégorie est volontairement maintenu, enfin, c'est-à-dire que c'était surtout pas à moi en tant que chercheuse de dire aux bibliothécaires, bon alors un adolescent c'est ça, qu'est-ce que vous faites en direction de ce public-là. De fait, certains établissements travaillent plutôt en direction des collégiens, voire préadolescents, et d'autres vont jusqu'à un travail en direction des jeunes adultes, travaillent par exemple en direction de jeunes mères. Et donc, pour moi, tout ça peut faire partie de la catégorie. Peu importe, c'est pas ça qui va être important ici. Je ferme la parenthèse. Donc, dans cette politique d'accueil, il me semble qu'on peut distinguer différents aspects. Premièrement, il s'agit d'abord d'initier par rapport à cet implicite qui est important dans les bibliothèques et notamment qui est inhérent au libre accès. Il s'agit de faire découvrir, d'abord de faire découvrir la richesse des fonds et des services qui est souvent insoupçonnée, les possibilités offertes donc par le lieu. Et souvent, on observe des réactions de surprise. Ah bon, on peut faire ça. Ah bon, il y a ça. Je n'avais pas imaginé. Bon. Mais initier, c'est aussi initier au mode de classement et donner l'autonomie aux adolescents. Ça passe notamment par des visites de classe qui sont des choses très très classiques, mais qui sont des choses très très classiques plutôt au niveau de l'école primaire que au niveau des plus grands, et qui parfois peuvent être un peu rapides, et dans les cas où j'ai dans les cas que j'ai auxquels je pense là, on a un vrai travail d'apprivoisement de la bibliothèque, c'est-à-dire que les séances d'accueil, d'abord elles sont systématisées. Il y a une bibliothèque par exemple qui accueille toutes les classes de 4e de la commune en question, qui concerne 4 collèges, donc ça fait déjà pas mal de monde. Et les séances de visite de la bibliothèque, c'est 2 heures par groupe, en demi-groupe qui ensuite se subdivise en sous-groupes de 5-6, avec un personnel, un bibliothécaire un personnel à chaque fois, pour chaque petit groupe. Donc ça veut dire que ça mobilise l'ensemble de la bibliothèque pendant ces séances, et donc ça prend énormément de temps. Mais voilà, donc c'est le premier mode, donc déjà initier pour donner l'autonomie. Ensuite, deuxièmement, expliciter, c'est aussi expliciter les règles, expliciter les modes de fonctionnement. Et expliciter les modes de fonctionnement, ça veut dire déjà dire les choses, mais aussi se mettre d'accord au sein de l'équipe. Donc il y a tout un travail d'explicitation, mais aussi de mise en cohérence parce que le flou en la matière semble particulièrement problématique. Si une partie du personnel dit que telle chose est autorisée et une autre partie du personnel dit que c'est interdit, c'est un peu nébuleux. Donc, travail d'équipe pour mettre au clair ces choses-là. Et aussi, ce qui semble important à ces moments-là, c'est de montrer plutôt tout ce qui est possible que tout ce qui est interdit. Et par exemple, c'est des questions de formule de règles, mais dire on téléphone dans le hall, c'est pas pareil que dire on ne téléphone pas dans la bibliothèque, même si ça revient au même. Bref, donc voilà, des questions de formulation, mais surtout d'explicitation. Ensuite, troisième élément de cette politique d'accueil, il s'agit de reconnaître, d'intéresser, mais aussi de s'intéresser. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réciprocité. Il s'agit d'abord de rompre l'anonymat. Il y a une grande importance accordée au fait de saluer les personnes, les adolescents, de les appeler par leur prénom, de leur demander « Tiens, tu viens faire quoi aujourd'hui ?» etc. Et cette politique d'accueil peut être très... très développée. Il y a une certaine bibliothèque de quartier, là, vraiment, pour le coup, qui est implantée en plein milieu d'une cité qui, au début, avait quelques difficultés à ne pas faire l'objet de toutes sortes de dégradations, etc., qui a fait ce travail d'accueil en installant des postes de travail sur le parvis où, sur le parvis, il y a des bibliothécaires qui accueillent, justement. Voilà, bon, bref, donc je passe là-dessus, je pourrais y revenir. En tout cas, globalement, tout cela constitue une nouvelle posture qui demande de sortir de la réserve qui caractérise traditionnellement la profession et surtout de revenir sur ce qui faisait la base du libre accès. Je vais aller un peu plus vite sur les points suivants. Donc d'abord, deuxième point, l'usage de nouveaux médias. Donc c'est le deuxième point très très important dans ces politiques en direction des adolescents. Alors il s'agit donc de partir des centres d'intérêt des jeunes et de leurs pratiques réelles. Donc là encore, je rejoins le propos de Max Butlen tout à l'heure. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que le livre n'existe plus, mais ça veut dire qu'on ne part pas du livre et le livre n'est pas forcément au centre. Donc, ça se traduit concrètement par surtout des ateliers de formes diverses, par exemple autour du dessin du manga, mais aussi des ateliers de mixage, de musique, des ateliers où il s'agit de filmer et de faire du montage, etc. Bon, donc toutes sortes de dispositifs qui ne mettent pas le livre au centre, même si le livre, encore une fois, peut y avoir sa place à un moment donné, et surtout qui ne sont pas évidents à mettre en place parce qu'ils demandent des compétences spécifiques que tous les bibliothécaires n'ont pas forcément. Il reste qu'on est bien dans, il me semble, dans le rôle de la bibliothèque, dans la mesure où ce sont toujours les savoirs et l'éducation qui sont au centre, même si on passe par d'autres médias. Et donc, on n'est pas dans un centre de loisirs, enfin, au sens loisir du terme divertissement. On n'est pas à Disneyland, quoi. Enfin, c'est pas. Voilà. Donc, il me semble qu'on est toujours dans le rôle de la bibliothèque. Je prendrai juste pour, comme exemple le jeu, qui est en quelque sorte un cas d'école. Le jeu qui, en fait, peut être en bibliothèque, enfin, aujourd'hui, il y a toute sa place en bibliothèque, qui peut être le jeu de société ou des formes plus modernes de jeux vidéo. Mais dans tous les cas, on va s'apercevoir que le jeu, ça peut être différentes choses. Ça peut être ou bien du divertissement pur et c'est pas très intéressant. Et c'est la plupart du temps pas comme ça que les bibliothèques s'en emparent. Ou bien c'est vraiment un outil pédagogique, déjà un outil éducatif, c'est-à-dire où il s'agit d'apprendre à collaborer, de construire des choses ensemble, etc. Notamment, les jeux vidéo collaboratifs ont l'air de pouvoir jouer un rôle dans ce sens. Mais aussi, les jeux sont mobilisés pour leur intérêt pédagogique et notamment en lien avec l'école. Alors, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, parce que finalement, moi, j'étais très surprise dans cette enquête de voir que on est pas tant que ça dans le anti-école, anti-pédagogique, etc., comme il a été pointé tout à l'heure.
Deux minutes.
Ouais. On passe à communication de la quart d'heure. Donc, troisième point, ce qui m'apparaît très important, c'est tout ce qui permet d'impliquer les jeunes, donc de mettre en action. Donc, en quelque sorte, on peut dire que globalement, il ne s'agit pas de partir de documents à faire découvrir, qu'il ne s'agit pas de partir du lieu qu'il s'agirait de faire fréquenter, mais qu'il s'agit de partir des pratiques et d'encourager des pratiques, les pratiques qui sont déjà être avec d'autres, être reconnu dans ce qu'on fait, faire des choses, etc. Bref, donc tout ça va passer par un certain nombre de dispositifs qui mettent en action véritablement des jeux, des ateliers, des scènes ouvertes, etc. Il s'agit en tout cas toujours de responsabiliser et d'associer aussi en travaillant pas qu'avec les adolescents, mais éventuellement en travaillant en lien avec d'autres générations, en mettant des adolescents avec des enfants, avec des personnes âgées, etc. Évidemment, l'écueil, c'est la démagogie, mais dans les cas que j'ai observés, on tombe pas là-dedans. Ensuite, il y a des dispositifs qui impliquent comme ça des jeunes qui ont l'air d'être un peu anecdotiques, c'est-à-dire qui ont l'air de ne toucher qu'un très petit nombre d'adolescents. Et en fait, il me semble que malgré tout, même s'ils ont l'air anecdotiques en ce sens, numéral du terme, il me semble qu'ils sont très importants, ces dispositifs, parce qu'ils participent à modifier l'image de la bibliothèque et la posture de l'ensemble des usagers. Enfin, dernier élément, l'ensemble de ces dispositifs joue beaucoup sur les partenariats et sur l'inscription avec le territoire. Alors, les partenariats d'abord avec l'école, qui finalement sont particulièrement importants, les partenariats avec les collèges notamment, sous différentes formes, et des partenariats également avec toutes sortes d'autres structures associatives, municipales, etc. L'intérêt de ces partenariats, c'est de mutualiser les moyens d'abord, mais aussi de participer à changer l'image de l'institution dans la commune. Je pense par exemple au cas d'une petite bibliothèque dans une petite commune de province où un projet de création d'un livre de cuisine a été mis en place. Ce projet a impliqué à la fois le lycée professionnel du coin, mais aussi les commerçants, les restaurateurs et tout un ensemble de personnes qui ne sont pas forcément des partenaires immédiatement imaginés quand on parle des bibliothèques. Bref, donc il s'agit globalement de changer l'image du lieu. Ce qu'on peut dire pour conclure et essayer de rassembler un peu tout ça, c'est qu'on a... On a dans tout ce travail une logique de proximité. Donc on est dans des cas de bibliothèque de proximité, au sens où il s'agit de réduire la distance. Donc c'est vraiment de la proximité dans ce sens symbolique du terme. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce travail qu'on voit ici en direction des adolescents peut en fait être élargi à des politiques des bibliothèques en direction des publics éloignés. Alors, on voit bien qu'il y a tout un ensemble de conditions de possibilité de ces politiques. Notamment, on voit bien qu'elles supposent une nouvelle forme d'organisation du travail, une nouvelle conception du travail, notamment par quatre aspects. D'abord, elles supposent un travail de médiation au sens où... on part des publics et non pas des collections. C'est dans ce sens-là que je définirais médiation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas arriver aux collections, mais ça veut juste dire que le point de départ n'est pas le même. Deuxième caractéristique de ce travail, il suppose un élargissement du domaine des compétences, et notamment du domaine du côté des arts ou du côté de l'animation, sont parfois présentés par les bibliothécaires comme étant des métiers qui ne sont pas les leurs. Mais là, en l'occurrence, dans les cas que j'ai observés, on dit et pourquoi pas, et pourquoi on ne ferait pas aussi de l'animation. Enfin, il n'y avait pas cette opposition-là marquée. Troisième caractéristique, disons, de cette organisation du travail, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on travaille en équipe qu'on peut notamment se partager le travail et avoir les compétences des uns et des autres qui se complètent. Mais c'est aussi un travail d'équipe qui permet de mieux communiquer et de mieux expliciter les normes et surtout d'avoir une cohérence par rapport à tout ça. Et enfin, quatrième caractéristique de cette organisation du travail, c'est un travail qui, donc, comme je disais, mise beaucoup sur des partenariats, partenariats qui eux-mêmes demandent beaucoup de temps, parce que ça ne marche que si c'est sur le long cours, parce qu'il faut s'ajuster entre cultures d'institutions différentes, et il faut aussi des lieux pour que les différentes institutions aient à se rencontrer. Donc tout ça ne va pas de soi. Et surtout, l'ensemble de ce travail, donc coûteux à tous ces égards, repose souvent sur un très fort engagement des personnes, des personnels concernés, en termes d'énergie et de temps. Et on peut craindre que cet engagement appuyé sur des personnes finisse par s'épuiser, surtout si les tutelles manifestent pas la reconnaissance qui est nécessaire et ne donne pas les moyens nécessaires, notamment en termes de temps, en termes de personnel. Par exemple, dans la bibliothèque que je vous citais où on a créé ce projet de livre de cuisine, et quand la modification des rythmes scolaires a été mise en place, on a dit aux bibliothécaires, qui sont très peu nombreux, ah ben vous pourriez peut-être animer les ateliers périscolaires, etc. Oui, mais bon, au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Donc voilà, engagement des personnels, si c'est ça la condition de possibilité, ça pose problème. Merci.
Merci, Cécile. Le maître des horloges a toujours une allure de surmoi tyrannique, donc je suis un peu désolé de vous avoir un peu, je sais pas, coupé l'un et l'autre, mais je voulais quand même qu'on puisse entendre Charlotte sur la question du plaisir. Tout de même, en bibliothèque, c'est pas si fréquent. Et on est souvent, comment disait Jean-Claude, noyé, on noie les frissons glacés, non, exsacrés de l'extase religieuse dans les eaux glacées du calcul égoïste. Allez, c'est à vous. Je ne peux pas m'en empêcher.
Merci. Donc, je suis censée finir dans 6 minutes. Non. Je ne peux que vous promettre que je ne finirai pas dans 6 minutes. Non, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée et surtout messieurs Evans et Thierry Ermakov de me donner l'occasion de présenter une partie de mes travaux. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire part d'une réflexion sur la question du plaisir en tant qu'outil de démocratisation culturelle, point d'interrogation. Pourquoi le plaisir, donc, c'est lié à mon parcours de recherche et à la centralité de la catégorie plaisir, alors entre guillemets, telle qu'elle a pu apparaître dans les différents travaux et terrains de recherche que j'ai réalisés. Donc, je vous propose un petit rappel, une petite présentation en fait, de cet itinéraire pour que vous compreniez mon intérêt pour cette question. Donc, tout commence en 2008-2009 dans le cadre d'une enquête collective sous la direction de Denis, ici présent. Enquête à laquelle je participe et nous réalisons une série d'entretiens semi-directifs à destination d'un ensemble de bibliothécaires que nous interrogeons sur leur conception du métier, leur conception de leur environnement de travail, leur conception de la bibliothèque en général. Ça, c'était en 2008-2009. Donc, et ce qui se dégage, un des éléments récurrents, c'est précisément la centralité de la notion de plaisir que je ne définirai pas volontairement. Plaisir qui apparaît comme élément central pour les professionnels que nous rencontrons, central dans la conception qu'ils ont de leur métier, dans la conception de la bibliothèque. Ce qu'il faut préciser, c'est important, c'est qu'il s'agit de médiathèques de quartier, de médiathèques de proximité dans des quartiers populaires, pour reprendre ce que disait Denis, qui sont confrontés à ce moment-là à deux problématiques particulières qui apparaissent en tout cas comme problématiques aux yeux des professionnels. Premièrement, à savoir ce qui apparaît comme un manque de public, dit autrement des taux d'inscription d'usagers actifs relativement faibles par rapport aux moyennes nationales notamment, et des problématiques conflictuelles qui se manifestent ici ou là de façon plus ou moins récurrente, de façon plus ou moins violente, soit à destination des équipements eux-mêmes, ce qui a été largement étudié par Denis, mais aussi de façon plus ordinaire, j'ai envie de dire, avec des populations juvéniles, avec les adolescents qui sont usagers ou non des équipements. Et dans ce cadre-là, finalement, le plaisir, dans le discours des professionnels, apparaît comme une façon d'ouvrir la bibliothèque sur le quartier, de réduire cette distance sociale, mais aussi d'agir sur les interactions, sur les rapports sociaux qui peuvent apparaître entre bibliothécaires et adolescents. Je continue l'histoire de ma recherche. 2010-2014, donc dans le cadre de ma recherche doctorale, je mets en place un dispositif d'observation participante dans une médiathèque de proximité qui me donne l'occasion précisément de suivre de plus près les interactions entre bibliothécaires et usagers, de participer à des réunions d'acquisition, d'élaboration de politiques documentaires, politiques culturelles, de suivre finalement l'élaboration de la politique culturelle de l'établissement. Et là aussi, finalement, je prends conscience de la récurrence avec laquelle le plaisir apparaît dans les bouches des uns et des autres. Et enfin, dernier élément, 2014-2015, donc je suis chargée de recherche dans le cadre d'une enquête sur un dispositif de médiation littéraire que certains connaissent peut-être, qui s'appelle la Biblioconnexion, que je vais vous montrer tout de suite. Donc dans le cadre d'une enquête sous la direction de Nathalie Montoya. Il faut attendre. Est-ce que quelqu'un est meilleur que moi ? C'est bon ? Ah oui. Ah, merci Denis. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est un dispositif que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc pourquoi c'est intéressant, en tout cas pour moi, de vous faire part de cette évolution des travaux et des terrains de recherche, c'est que finalement, nous sommes en 2016, mes travaux commencent en 2008, et à chaque fois, ce qui se manifeste, en dépit de la diversité des contextes locaux, en dépit de la diversité des professionnels que je rencontre, que nous rencontrons, la catégorie plaisir se maintient, elle apparaît comme récurrente. Donc à la fois, ce n'est pas quelque chose de spécifique au terrain que j'ai pu investir, puisque si on regarde, ne serait-ce qu'à l'échelle de la temporalité qui est la mienne, 2008-2016, il y a eu beaucoup de changements dans le monde des bibliothèques, dans le monde de la lecture publique, à travers la diversification des supports, à travers une affirmation des réflexions sur les aménagements des espaces intérieurs, sur la place des usagers dans la politique d'établissement. Sur la diversification des usages, l'introduction par exemple de jeux vidéo, de concours de jeux vidéo. Et je vous renvoie à une émission récente qui est passée sur France Inter, qui était intitulée « Y a-t-il encore des livres dans les bibliothèques ?» en référence à la diversification des activités proposées. Et si vous écoutez cette émission, vous vous rendrez compte que c'est loin de faire consensus et que ça inquiète certains acteurs de la profession. Donc globalement, nous sommes passés à cette question de la bibliothèque troisième lieu dans le cadre de pratiques culturelles contemporaines en évolution, donc ce qui a été souligné par les travaux notamment récents de Sylvie Octobre, avec une augmentation de la culture de divertissement, une hausse de la séparation entre culture pour soi et culture dite devoir ou culture savoir, une horizontalisation des instances de transmission et finalement la hausse de l'importance des pairs dans la formation des goûts. Avec cette idée, si on le prend d'un point de vue un peu pessimiste, que finalement, les adultes, les acteurs du champ scolaire, les acteurs culturels en général, auraient de moins en moins de prise sur la formation des goûts des enfants et des adolescents. Et finalement, les bibliothèques, les bibliothécaires qui sont des acteurs réflexifs, suivent de près, il me semble, ces évolutions contemporaines. Ils sont attentifs finalement au positionnement, à l'adaptation. Faut-il adapter justement la bibliothèque à ses pratiques culturelles en évolution. Donc il y a à la fois un échelon national, mais aussi un échelon local qui me paraît important, parce que dans le cadre de mes travaux, ce qui se dégage, c'est ce que je pourrais appeler un effet territoire. Tous les professionnels rencontrés soutiennent que c'est particulier de travailler dans une médiathèque de quartier, dans un quartier d'habitat social et collectif, ce qu'on appelle communément des cités, et que le métier qu'ils font n'est pas exactement le même que ceux de collègues dans d'autres institutions, d'autres réalités socio-économiques. Donc tout ça pour dire que finalement, c'est cette question de la centralité du plaisir que je vous propose d'interroger, de voir finalement la place que le plaisir occupe d'un point de vue un petit peu rhétorique, de voir comment il peut être traduit éventuellement en action concrète, en action à destination des usagers, mais aussi finalement, est-ce qu'il n'y a pas des limites et des ambivalences qui se posent à travers cette promotion du plaisir. Donc, Tout d'abord, si on s'intéresse vraiment à l'échelon rhétorique, j'ai envie de dire, du plaisir, ce qui apparaît de façon permanente, c'est cette opposition, et je ne vous apprends rien, cette opposition extrêmement fréquente avec la notion de devoir, c'est-à-dire cette prise de distance que les bibliothécaires défendent avec une lecture devoir, une lecture scolaire, une approche pédagogique et plus largement ce qui s'apparente à une forme de contrôle sur les lectures, à la fois sur le fond et sur la forme. Cette valorisation du plaisir, elle prend sens aussi dans la référence aux besoins. Donc tout ça, ce sont des catégories entre guillemets indigènes. Hein, donc ce sont les professionnels rencontrés qui emploient ces termes-là. Les besoins qui sont absolument valorisés dans le cadre local qui est celui de mes recherches, au regard particulièrement des spécificités de la population environnante. Donc pour rappel, une population qui est confrontée majoritairement à des taux de chômage très importants, des niveaux de formation et de diplômes beaucoup plus faibles que la moyenne nationale, beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de populations immigrées ou dites issues de l'immigration, enfin un contexte global qui est marqué par une précarité économique, une précarité sociale générale. Et dans ce cadre-là, la bibliothèque doit répondre, pour reprendre les termes des professionnels, aux besoins de ces populations. Et ils le font à travers la promotion de ce qu'on appelle des livres pratiques, à travers la promotion d'ateliers d'apprentissage de la langue, de préparation à des entretiens d'embauche, de rédaction de CV, etc. Et en même temps qu'ils défendent la présence et la présence nécessaire en fait de ce type d'activité, de ce type de support, pardon, ils élaborent immédiatement après un discours en disant qu'il ne faut pas limiter, réduire, pour reprendre un terme fréquent, la bibliothèque à ça. Car alors finalement, la bibliothèque défendrait un rapport utilitariste à ses collections, à l'espace, etc. Et finalement, si on s'arrête juste sur ce point-là, on peut dire que dans la rhétorique qui est élaborée, le plaisir apparaît comme une forme de possibilité de relâchement, de divertissement dans la bibliothèque, en dehors finalement de tout impératif social, scolaire, familial, parental, en dehors de tout devoir moral de lecture. Donc concrètement, comment ça peut être mis en place? Je ne vais pas pouvoir aborder tous les exemples d'action et ça rejoint, ça fait écho à ce qui a été dit précédemment. Mais un des éléments qui me paraît très important et très intéressant, c'est précisément la valorisation de la participation des usagers à la vie de l'institution, de façon générale, notamment à travers les cahiers de suggestions, la participation à l'élaboration de politiques documentaires. Et ce qui est très intéressant à voir, à mon sens, dans cette promotion de la participation, c'est qu'elle fait immédiatement référence au cadre local également. Donc, dans les territoires qui ont été investis par cette recherche, il y a bien souvent des programmes de rénovation urbaine qui génèrent bien souvent, et ce n'est pas moi qui l'a étudié, mais c'est ce que montrent les travaux en sociologie urbaine, qui génèrent très souvent un sentiment de dépossession de son environnement immédiat, de son quartier, chez des usagers, mais chez les habitants en général. Et finalement, dans ce cadre-là, la bibliothèque apparaît comme une instance qui promeut une forme de participation à l'échelon local. Pour le dire autrement, à défaut de pouvoir agir et être acteur à l'échelle de son quartier et des évolutions qu'il est en train de connaître, soyons acteurs de la bibliothèque de notre quartier. Cette promotion du plaisir, elle passe aussi par tout un tas de réflexions et de changements sur les espaces intérieurs, sur l'aménagement, sur la signalétique, mais aussi sur le mobilier, sur la place du corps, la place des corps dans la bibliothèque. Quel est le corps légitime dans une bibliothèque? Quels sont les corps légitimes? Une politique d'accueil également pour rejoindre ce que disait Madame Rabault, et une diversification des fonds et des supports à travers certains outils relativement novateurs comme la biblioconnexion. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais la biblioconnexion, donc, c'est un dispositif de médiation littéraire qui a été impulsé par le CPLJ en 2012, qui a été testé au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil la même année. Donc, c'est une console interactive, en fait, qui repose sur un usage collectif et qui propose, en empruntant à l'univers vidéoludique, des livres numérisés. Une vingtaine de titres au moment de l'enquête étaient disponibles en différentes versions. Nous avons des versions faciles à lire et à comprendre, version en audiodescription, utilisation des langues des signes éventuellement, et qui est destinée finalement aux individus considérés comme peu lecteurs, faibles lecteurs, et ce, quelle que soit la raison. C'est-à-dire qu'au départ, le public premier qui était visé, c'était le public en situation de handicap, physique et ou moteur et ou sensoriel, cognitif, etc. Et petit à petit, s'est dégagé l'idée que ça pouvait éventuellement représenter, susciter un intérêt chez les publics qui auraient un manque d'appétence pour la lecture. Donc cet outil a été utilisé en institutions dites ordinaires comme des bibliothèques, mais aussi dans des instituts médico-éducatifs, dans des établissements scolaires ou des hôpitaux. Et avec Nathalie Montoya et un ensemble d'étudiants du Master 1 de Paris 7, nous avons réalisé des observations et des entretiens dans ces différentes structures auprès d'usagers et de leurs encadrants. Donc je peux pas là non plus prendre le temps de revenir sur tous les résultats de cette enquête, mais ce qu'on peut dire déjà comme élément, c'est que c'est précisément la dimension technologique, numérique et collective qui a suscité une forme de curiosité, d'enthousiasme de la part des encadrants qui ont utilisé la biblioconnexion. C'est-à-dire que pour eux, la plus-value de cet outil, contrairement à une action culturelle plus classique, à un livre, etc., reposait sur son caractère apparemment hybride et sur sa proximité avec les univers culturels juvéniles. Donc dès le début, les professionnels que nous avons rencontrés ont manifesté le souhait de s'en servir comme moteur d'un rapport plaisant, d'une expérience de plaisir, à travers une nouvelle pratique où la lecture, finalement, n'est pas absente. Donc, je ne vous ai pas expliqué, mais vous l'avez peut-être vu sur le schéma. Donc, l'écran, en fait, symbolise un... Donc là, vous, par exemple, vous avez un exemple d'utilisation de la biblioconnexion. Projection du livre numérisé sur un écran. Un enfant... un jeune utilisateur qui joue le rôle du tourneur de page et qui est détecté en fait par la console Wii. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais la console Wii qui est très familière, très présente dans les pratiques culturelles juvéniles et qui va pouvoir faire tourner comme ça le livre au moyen de ses bras et de ses jambes par des gestes très simples. Et le dispositif qu'on a le plus pu observer, c'est précisément une division entre un enfant qui tient le rôle de tourneur de page et un, deux, trois enfants, selon le livre qui est lu, qui joue le rôle de lecteur. Et en général, un public qui est autour de ce petit dispositif. Donc, si on regarde du côté des usagers que nous avons rencontrés, qu'est-ce qu'ils disent de cette biblioconnexion? Qu'est-ce qu'il plaît et qu'est-ce qu'il déplaît? Finalement, ce qui suscite du plaisir dans les entretiens que nous avons pu réaliser, dans les observations que nous avons pu mener, c'est précisément, premièrement, la dimension collective qui rend l'activité attrayante, c'est-à-dire on nous dit que finalement, nous ne sommes plus seuls confrontés à la lecture. La présence du groupe est stimulante et c'est une activité qui est plus vivante qu'une lecture plus traditionnelle. L'autre élément qui est souligné, c'est la dimension vidéo. La référence à l'univers du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo est là aussi omniprésente. Donc la dimension ludique qui est soulignée. Et un autre élément qui était important, c'est la dimension corporelle, donc, qui rejoint évidemment cette dimension ludique, mais l'idée que finalement, il y a un engagement nouveau du corps dans l'acte de lecture, un engagement du corps à la fois individuel, mais aussi dans un corps collectif, et qui change précisément de ce qu'on peut se représenter dans un rapport à la lecture. Et finalement, ce qui apparaît à la lecture des entretiens, des entretiens réalisés auprès des usagers, finalement ce qui plaît c'est précisément cette possibilité d'être acteur, d'accord, cette possibilité d'être acteur qui répond finalement aux formes d'expressivité juvénile qui sont extrêmement manifestes à travers les blogs, les vidéos, etc. Et voilà, il y a cette idée qu'on change le rapport à la lecture, on change aussi le rapport à l'institution, on change le rapport au médiateur, parce que dans l'idée, on peut se passer de la présence de l'adulte et l'activité prend place entre pairs et dans l'action. Si on se tourne maintenant du côté des retours des encadrants, certaines institutions nous ont fait part de retours intéressants et il faut le dire tout de suite, je vais être obligée ici de distinguer, de mettre à part les bibliothécaires qui ont été rencontrés dans ce cadre-là. Donc ce dont nous ont fait part plusieurs encadrants, des professeurs, des éducateurs spécialisés, des documentalistes, etc., c'est la possibilité, à les écouter, de générer le goût pour certains documents qui ne sont pas forcément familiers des enfants qui s'en sont servis. Donc la Biblioconnexion propose des ouvrages très connus des publics juvéniles, comme Ariol ou Akissi. Mais ce que nous disent finalement les encadrants, c'est que par l'utilisation régulière répétée de ce dispositif, on peut générer un goût, une demande, une appétence pour certains ouvrages plus méconnus. Le deuxième élément qui a été souligné, c'est la possibilité de développer des séances en autonomie sans encadrant, où finalement les enfants, les adolescents se saisissent de l'outil et n'ont plus besoin de faire appel au médiateur adulte, quel que soit en fait son statut. Et le troisième élément qui a été souligné par ces encadrants, c'est précisément la dimension de sociabilité, d'échange et de mixité sociale que cet outil peut impulser entre utilisateurs autour de cette pratique. Donc, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que ces résultats contrastent avec les résultats qui nous ont été rapportés, que nous avons pu relever du côté des bibliothécaires, des bibliothèques utilisatrices de ce dispositif. Donc le premier élément qu'il faut souligner, c'est que si tous les bibliothécaires rencontrés se sont montrés très enthousiastes à l'idée de se servir de cet outil et ont manifesté une curiosité pour ce nouveau média, il faut souligner qu'ils ont en commun un profil particulier qui est qu'ils sont eux-mêmes relativement jeunes. C'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est relativement jeunes aussi dans la profession. Qui sont eux-mêmes adeptes et familiers des outils multimédia, des outils numériques. Et ils nous ont fait part des craintes, des méfiances, des hésitations de certains de leurs collègues par rapport à la biblioconnexion en question. Le deuxième élément qui doit être souligné, c'est finalement la lenteur avec laquelle les bibliothèques, en général, se sont emparées de l'outil. Pour vous donner un ordre d'idée, il a fallu parfois plus de 6 mois entre le moment où le dispositif était réceptionné et où la première séance était organisée. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Il ne s'agit pas pour moi de juger, de critiquer cette lenteur, mais je trouve qu'elle nous invite à penser, elle nous interroge sur ce que l'absence finalement de cet outil peut nous dire sur la place de ces nouveaux outils dans les bibliothèques, sur le rapport aux outils technologiques, aux nouveaux médias des bibliothécaires. À mon sens, cette absence, elle pose aussi la question finalement de la place du corps, de la place des corps dans la bibliothèque, des corps en mouvement. Finalement, quelle légitimité y a-t-il, quand bien même il y a tout un ensemble de réflexions sur la nécessité de diversifier, de rendre légitimes différents usages de l'institution. Un autre élément qui a été souligné, c'est une utilisation très peu diversifiée de l'outil par les bibliothécaires, au contraire des autres encadrants qui ont eu une utilisation des différentes versions, qui ont fait appel à des dispositifs scéniques, qui se sont servis de la médiation sonore que permet le dispositif. Finalement, dans le cadre des bibliothèques que nous avons pu investir, rencontrer, c'est une utilisation qui s'est beaucoup plus rapprochée d'une séance de lecture traditionnelle qui se rapporterait au livre papier. Donc finalement, si on regarde un petit peu ce que cette enquête nous dit, c'est que d'un côté, ce qui fait le plus plaisir, d'après les usagers rencontrés dans cette activité, à savoir la dimension collective, la possibilité de se passer de l'adulte, d'être en autonomie, la possibilité d'être acteur dans une nouvelle forme de pratique culturelle expressive, n'est pas valorisée finalement, n'est pas reprise, n'est pas réappropriée par les bibliothèques qui s'en sont servis. Donc il y a là, à mon sens, une première forme d'ambivalence par rapport à cette question du plaisir, qui est pour autant présentée comme une catégorie, comme une catégorie récurrente dans les discours. Cette cette valorisation du plaisir et les limites qui sont afférentes, elles se manifestent également dans le cadre de la politique documentaire, dans le cadre de l'action culturelle en général, et de tous les débats, de toutes les discussions qui peuvent apparaître entre professionnels par rapport à la présence de tel ou tel document. Donc je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que certains romans best-sellers, la presse People, certaines revues dites communautaires comme Amina, les séries de fantasy ou l'introduction de jeux vidéo sont loin de faire consensus au sein de la profession. Et finalement, quand on regarde un petit peu dans le détail ce qui se joue dans ces discussions et dans ces prises de position différentes, c'est finalement différentes conceptions de la bibliothèque et au final, différentes acceptions de ce plaisir tant clamé. Et pour aller rapidement, je vais être un petit peu caricaturale, mais on peut distinguer deux positions par rapport à cette politique documentaire. D'un côté, des professionnels plutôt jeunes et ou non diplômés, peu diplômés en tout cas, qui valorisent la présence de documents tels que les jeux vidéo, donc documents ou supports, mais tels que les jeux vidéo, les romans Harlequin, Dora pour le secteur jeunesse, car ça apparaît à leur sens comme une forme de reconnaissance, précisément au sens fort de reconnaissance, des différents publics, des différents goûts. C'est la défense d'un droit au plaisir qui se manifeste, et ce plaisir en partant des activités, des pratiques existantes chez les individus. Faire partir l'élaboration de la politique documentaire des pratiques existantes des individus. Et du coup, pour eux, ça s'apparente précisément à la valorisation de plaisirs expressifs, de plaisirs collectifs, etc. De l'autre côté, nous avons des professionnels qui s'apparentent plus à la figure du militant culturel, qui conçoivent la présence de ces documents comme quelque chose de potentiellement néfaste. Et c'est là où il y a une ambiguïté qui apparaît, néfaste à la fois par ces supposées absences d'effet. Une des critiques récurrentes, c'est que, je cite, « ça n'apporte pas grand-chose, ce n'est pas très utile, ça ne fait rien ». Donc il y a cette idée que la lecture doit produire quelque chose chez le lecteur, chez le récepteur. Et de l'autre côté, quand on pense qu'il y a des effets, ce sont des effets néfastes, où la présence de ces documents, de ces supports, éloignerait du livre, ou quand il s'agit de livres, provoquerait un appauvrissement du vocabulaire, une forme de déconscientisation, d'aliénation, dépolitisation des populations lectrices de ce type de documents. Et d'une certaine façon, pour ces professionnels, légitimer tous les plaisirs dans la bibliothèque, concrètement, revient à tomber dans une forme de relativisme culturel absolu qui, d'une certaine façon, nuirait à la raison même d'exister à la fois des bibliothécaires en tant que groupe social et à la bibliothèque en tant qu'institution. J'ai une phrase. Donc, pour conclure... ce qu'on voit apparaître à travers ces travaux, c'est une forme d'ambivalence de la valorisation du plaisir. D'un côté, une définition du plaisir qui est une conception, à mon sens, normative, où il y a une injonction adressée aux individus à se distancier de ce qui est connu, de ce qui est familier, que ce soit du registre familial, amical ou des pairs. Et de l'autre côté, et c'est porté par des professionnels plus récemment entrés dans le monde de la lecture publique, valoriser le plaisir comme mode d'expérience particulier à la lecture, à la culture et à ses institutions. Merci.
Merci.
Bravo.
Oui, oui, bien sûr. Et on commence à quelle heure ? 14h15. Donc on prendra les questions qui concernent ces trois interventions qui se répondent et qui répondaient aussi à ce qui a pu être dit ce matin au début de l'après-midi. On reprend à 14h15 puisqu'on a pris un peu de retard, mais c'est du retard normal. Voilà.